du jeudi 19 novembre. Alors Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ce moment. Merci Seigneur pour cette famille spirituelle qui nous entoure et qui se réunit matin après matin pour échanger, pour plonger ses regards dans ta parole et pour trouver dans cette même parole les instructions, la nourriture spirituelle qui nous est nécessaire pour la journée d'aujourd'hui, mais aussi pour notre marche quotidienne devant ton regard. Alors nous prions, Seigneur, que tu étendes ta main, que tu nous touches, que tu nous affermisses, que tu nous enseignes. Et qu'en toute chose, Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Tout ce que nous sommes, tout ce à quoi nous pouvons prétendre, tout ce vers quoi nous aspirons, nous devons tout cela à ta grâce et uniquement qu'à ta grâce. Alors ce matin, c'est humblement que nous venons devant toi proclamer que tu es le roi, que tu règnes encore, que tu domines sur toutes choses et que tu répands sur tes enfants encore aujourd'hui grâce, miséricorde et bénédiction. Alors merci Seigneur de bénir ma sœur, merci de bénir mon frère et de nous instruire ce matin. Nous t'avons prié en ton nom Jésus. Amen. Alors encore une fois, bienvenue à cette bénédiction matinale. Je vais lire pour vous les versets qui nous ont servi de méditation cette semaine. Dans Proverbes au chapitre 3, les versets 9 et 10. Proverbes 3, les versets 9 et 10 qui nous disent « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Le verset 10, encore une fois, « Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Alors simplement faire les petites mises en garde que j'ai fait tout au long de cette semaine, je tenais à les faire parce qu'on parle d'un sujet qui est souvent distorsionné, qui est souvent... méprisé ou qu'on étire à n'importe quelle sauce, et je ne voulais pas qu'on se méprenne sur mes propos. Donc la première mise en garde, notre partage cette semaine n'est pas sur la simple question de l'argent, mais beaucoup plus sur ce que notre relation à l'argent démontre quant à notre relation avec Dieu. Donc l'idée cette semaine, c'était pas de vous dire comment devenir riche et comment d'aller tirer toutes les bénédictions financières que certains pourraient prêcher. Mais c'était plutôt de vous enseigner et de vous inviter à réfléchir, à savoir comment on peut honorer Dieu avec notre avoir et avec nos biens, et avec notre recherche et notre richesse et avec notre pécule, mais aussi comment... s'assurer de laisser Dieu à la bonne place dans nos priorités. Très souvent, il y a des choses comme l'argent, comme le domaine financier, qui viennent faire ombrage à Dieu, qui viennent faire concurrence à Dieu. Donc, l'idée de cette semaine, c'était de vous inviter à, oui, considérer l'argent, mais considérer l'argent pour bénir l'œuvre de Dieu et pour honorer Dieu. De surcroît à cela, je veux que ça soit clair encore une fois que je ne suis pas un prédicateur de l'évangile de la prospérité. Je n'y adhère pas, je n'y crois pas, je ne crois pas que ce soit des principes bibliques pour des raisons toutes simples que je vous ai expliquées lundi. Paul va dire, et Paul est le grand enseignant de l'Église du Nouveau Testament, et Paul va dire qu'il a appris à se réjouir et se contenter dans l'abondance comme dans la disette. Ça veut donc dire que lui, l'apôtre, si apprécié, si respecté, si important dans l'histoire de l'Église, a malgré tout, par moment, connu la disette. Est-ce qu'il était moins loin? Est-ce qu'il était moins agréable à Dieu? Est-ce qu'il était moins détenteur de la puissance de Dieu? Absolument pas. Donc, juste dans la vie même de l'apôtre Paul, on se rend bien compte que l'évangile de la prospérité ne tient pas la route. Et enfin, Troisième mise en garde que je veux rappeler ce matin, je ne parle pas sur l'argent pour vous inciter à donner davantage à l'église locale, notamment celle que Dieu m'a donnée de superviser et auprès de laquelle je travaille, ou quelle que soit l'église dans laquelle vous appartenez. Je crois que le principe de la dîme est enseigné dans la Bible. Je crois que le principe des prémices sont enseignés dans la Bible. Je crois que les principes des offrandes sont enseignés dans la Bible. Mais après ça, ce qu'on fait des enseignements, c'est entre vous et Dieu. Moi, mon seul mandat, c'est de vous les enseigner, de vous montrer l'importance de ces principes. Mais après cela, c'est entre vous et Dieu quant à ce que vous faites de ces enseignements et comment vous les appliquez dans votre propre vie. Chose certaine, la Bible nous dit que celui qui donne doit donner avec joie et avec allégresse et non pas avec complainte. Donc si vous désirez donner à l'œuvre de Dieu, si vous voulez donner votre dîme, vos offrandes, cela doit être fait avec joie et non pas avec contrainte. Sinon, vous n'êtes pas en train d'honorer le Seigneur comme il se doit d'être honoré. Donc ce matin, ces mises en garde ayant été renouvelées, nous prenons la dernière partie du verset 10. Et tes cuves regorgeront de moût. Donc tout au long de cette semaine, on a divisé les choses en quatre sections. Lundi, on a parlé des avoirs, donc des richesses personnelles que nous pouvions avoir, de nos biens, de nos possessions. Et comment celle-ci devait servir aussi à honorer Dieu. On se rappelle le terme honoré, qui est le terme kabad en hébreu, et qui a été le centre même de notre réflexion cette semaine. Honoré qui veut dire rendre lourd, rendre pesant sur la balance que nous avons quant aux décisions, quotidiennes de notre vie. Dieu est-il lourd? Lui accordons-nous un poids lourd dans la balance, ou lorsqu'on le compare à d'autres priorités de notre existence, à d'autres items de notre existence, est-ce que Dieu est plus lourd que ces items, ou Dieu est-il plus léger dans notre balance et dans nos décisions par rapport à lui? Mardi, on a parlé du salaire, donc du fruit de notre travail. De ce qu'il en découle au niveau pécunier. Et on a vu que là aussi, notre salaire devait servir à l'œuvre de Dieu et à la volonté de Dieu. Et l'interrogation qu'on se posait, c'était à savoir, est-ce que lorsque je reçois mon salaire, ma première question est, qu'est-ce que Seigneur tu veux que j'en fasse, ou j'ai déjà commencer à répartir toutes les choses et ce qui reste à ce moment-là, s'il en reste, on donne à Dieu ou pas, ou Dieu a-t-il priorité sur l'ensemble des autres priorités de notre existence? Hier, on a parlé du travail. On a parlé que Dieu va honorer qui l'honore. Alors, si je fais en sorte que Dieu soit lourd dans ma balance, je pèserai lourd aussi dans sa balance. Et on a vu à travers le terme grenier que Dieu, dans sa bénédiction et dans sa réponse face à nos dons, à notre générosité face à l'œuvre de Dieu, sa bénédiction n'est pas de nous accorder les caprices et les demandes qu'on pourrait avoir personnellement, mais est de bénir même la source qui a amené ses fonds, ses avoirs, ce salaire. Donc Dieu bénit le travail par lequel nous l'avons béni. Et aujourd'hui, on continue un peu dans cette pensée-là avec les cuves qui regorgent de moût. Hier, on disait que nos greniers allaient être remplis, donc nos greniers allaient permettre de subvenir aux besoins et à la nourriture nécessaire pour aujourd'hui, mais allaient préparer aussi la saison suivante et que c'était comme un cycle de bénédiction qui ne cessait de se renouveler et de croître et de croître et de croître. Quand j'initie cette générosité envers Dieu, quand j'initie ce don initial vers Dieu, lui répond par une bénédiction qui va me permettre de l'honorer encore davantage qui l'amèneront lui aussi à m'honorer davantage et ainsi de suite de façon croissante. Et ce matin, donc, les cuves regorgent. Trois mots importants, les cuves, Yekeb, Y-E-Q-E-B, Y-E-Q-E-B, qui nous parle effectivement des cuves pour le vin et du pressoir à vin. On ne parle pas nécessairement encore des barriques qu'on faisait traditionnellement dans du bois, essentiellement dans du chêne, la plupart du temps, et dans lequel on faisait vieillir le vin. Mais on parle de cette grande cuve qui sert de pressoir, et on a ces images que vous avez certainement tous vues, où des hommes, des femmes rentrent dans ces cuves et marchent pour écraser le vin. C'était la façon de le faire traditionnellement à une certaine époque. On a aussi eu quelque chose qui ressemblait un peu à un pressoir à olive, où c'était des pierres qui venaient écraser le fruit et qui faisaient couler le jus qui en résultait. Donc on a le terme cuve, on a le terme regorger, parats, P-A-R-A-T-S, parats, P-A-R-A-T-S, qui parle de déborder, de surpasser, de déborder jusqu'à se répandre sur les côtés. Et enfin, on a le terme le mou, donc c'est un terme qu'il nous faut connaître lorsqu'on parle de vin et lorsqu'on parle de vinification ou de viticulture. C'est le terme en hébreu T-I-R-O-S-H, T-I-Y, R-O-W-S-H, je répète pour ceux qui prennent des notes, et je sais que vous êtes plusieurs, donc T-I-Y, R-O-W-S-H. Et là, quand on parle du mou, on parle du vin qui est nouveau, le vin qui est fraîchement pressé, très souvent qui n'est pas encore alcoolisé, qui n'a pas eu le temps de fermenter, qui est ce que certains peuvent appeler ça du vin doux, mais ça serait plutôt du jus, parce que si c'était du vin, ça serait déjà fermenté et alcoolisé. Donc, on parle de ce jus, de cette première presse qu'on fait avec le raisin. Alors, les trois termes vont nous donner quelques enseignements ce matin. Premièrement, tes cuves regorgeront de mou, les cuves. Ce qui est important de savoir, c'est que là, on nous parle d'une bénédiction. On est en train de dire, si tu as honoré Dieu avec ton avoir et avec ton salaire, on nous disait hier que nos greniers seraient remplis, et là que nos cuves vont regorger. Donc les cuves qui regorgent représentent une bénédiction de Dieu. Mais cette bénédiction, là où certains font l'erreur, c'est que certaines personnes pensent que la bénédiction est juste la récolte. La vendange en soi, donc la récolte du raisin, n'est pas une fin en soi. Il y a d'autres tâches subséquentes qui vont encore rester à faire. Certains d'entre nous, on voit le fruit qui grossit, qui mature, qui mûrit sur le cep de vigne. On le mange et on pense que c'est là la bénédiction ultime. Il reste encore du travail à faire parce que toute cette vigne qu'on a devant nous ne peut pas servir strictement à la consommation du fruit comme un raisin qu'on mange, un raisin de table, mais doit servir à autre chose. Sinon, on n'aura pas le temps de manger toute cette récolte avant qu'elle ne pourrisse et qu'elle ne se perde à même l'arbre, à même en fait, c'est pas un arbre, c'est un arbrisseau, c'est un buisson plutôt qu'autre chose. La vigne, en général, c'est pas très très haut. Donc il est important de comprendre que la récolte en soi n'est pas la bénédiction. Ça va nous pousser encore plus loin. Donc parfois, il y a des gens qui regardent la bénédiction de Dieu et ils se disent « Maintenant, je suis au Club Med. » Dieu bénit ton travail pour que tu puisses faire encore plus de travail. En fait, la récolte, lorsqu'on regarde ce qui se fait le jour de la récolte et lorsqu'on regarde la notion des cuves, on est en train de nous dire que la récolte est tout simplement une transition vers un autre type de travail, vers de nouveaux territoires, vers de nouvelles fonctions. Il y avait le viticulteur, celui qui cultive la vigne, celui qui cultive le raisin, mais il y a plus précis même que le viticulteur. Le viticulteur ne fait que s'occuper d'une vigne. Plus loin, il y a le vigneron. Le vigneron, c'est celui qui non seulement s'occupe d'une vigne, mais de surcroît à ça, qui prend le produit et qu'il traite le produit, qui le transforme, qui le change en un liquide, qui le change en différents produits, dont du vin. Donc la question pour toi et pour moi ce matin, c'est que certains peuvent s'arrêter simplement à être des viticulteurs, et le viticulteur n'est pas un vendangeur. Le viticulteur est simplement celui qui s'occupe de la vigne. Encore faut-il qu'il y ait des vendangeurs pour venir prendre le fruit et par la suite l'amener au vigneron qui, lui, sait le transformer en vin. Donc la question pour toi et pour moi, veux-tu être si spécialisé que tu passes à côté d'une certaine bénédiction? Et il y a des gens qui ne veulent pas prendre les occasions de service, qui veulent se limiter à un type bien spécialisé d'ouvrage et d'œuvre, et qui passent à côté de la bénédiction de Dieu. Tu te lèves ce matin en disant, moi je suis viticulteur, donc je m'occupe simplement de la vigne. Oui, mais comment tu vas ramasser le raisin? Et pourquoi tu ramasserais le raisin si la seule job que tu as, c'est de t'occuper de la vigne? Quelqu'un d'autre devra venir le faire à ta place, alors que tu pourrais être un vigneron qui traite la vigne, qui chérit la vigne, qui ramasse le raisin et qui par la suite est capable de le transformer pour avoir différents produits dont on peut se délecter. Donc, l'idée pour nous aujourd'hui, c'est de comprendre que même la bénédiction, hier on avait des versets qui nous disaient « Dieu bénit l'œuvre de nos mains ». Mais sachons que cette bénédiction-là n'est pas une fin en soi, mais tout simplement des horizons que Dieu ouvre encore davantage pour que nous puissions le servir et que nous puissions être profitables pour le royaume de Dieu encore davantage. Je vous parlais hier, et le frère David le connaît assurément, je suppose, d'un bien-aimé au Nouveau-Brunswick qui aujourd'hui est le troisième producteur mondial de saumon. Et ce frère-là a commencé simplement, je l'expliquais hier, en ayant simplement un petit plan de pêche, un petit territoire de pêche à travers lequel il voulait faire juste un peu de profit pour financer et soutenir les missions, parce qu'il savait que Dieu ne l'envoyait pas lui en mission, mais il se disait, Seigneur, j'ai à cœur de soutenir ces hommes et ces femmes qui travaillent pour toi. Le Seigneur a fait progresser cette œuvre, lui a donné du succès, qui fait qu'aujourd'hui, il est le troisième producteur mondial de saumon, mais de surcroît à cela, il a rajouté aussi différentes branches dans son entreprise. Il n'est plus limité au Nouveau-Brunswick, mais il s'étend en Europe, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, sur les côtes ouest et est du Canada. Il s'est répandu un peu partout et il ne fait plus simplement que le saumon, mais il a rajouté aussi d'autres fruits de mer et d'autres poissons. Et il s'est étendu selon la bénédiction que Dieu lui a donnée. Et ça, je pense que c'est une image qui est importante pour nous. Parfois, on est trop cantonné sur un domaine, on est trop cantonné sur une œuvre en particulier, et on oublie de voir que la bénédiction de Dieu veut qu'on aille de progrès en progrès. Donc, lorsque j'honore Dieu, Dieu va bénir mon travail, mais ce travail doit aller de progrès en progrès. Ça veut donc dire que je vais passer de la vigne au pressoir, du pressoir au chai dans lequel je vais entreposer le vin, et pendant un certain temps, qui va vieillir là jusqu'à l'embouteiller et à le rendre commerciable par la suite. Et peut-être que je vais trouver aussi des produits connexes, peut-être que je vais faire de la gelée de raisin, peut-être que je vais faire de la tarte au raisin, peut-être que je vais faire de la confiture au raisin, peut-être que je vais inventer d'autres produits avec les résidus même de la pulpe, du raisin et autres. Donc l'idée est de savoir que Dieu bénit ton travail lorsque tu l'honores, mais il le bénit pour que tu puisses croître dans ce travail afin de le bénir encore davantage. Tout le temps cette idée de cycle qui se renouvelle, mais qui va en fait de progression en progression en progression. Donc cuve, l'idée qu'on doit avoir avec la cuve, le yekeb, la récolte et les vendanges ne sont pas une fin en soi. Même quand tu vois le fruit qui est mûr, c'est pas une fin en soi. Il reste encore un autre travail et ce travail-là est une transition vers un autre type et une autre sphère d'action. De surcroît à cela, ils vont dire tes cuves vont regorger. Ça veut dire que ça va déborder. À l'occasion, on entend des gens et on prie pour des réveils, on prie pour qu'il y ait une nouvelle moisson d'âme. Et j'entends régulièrement des gens qui disent « Ouais, mais s'il y a trop de gens qui viennent, on ne saura pas quoi faire avec eux, puis on va les perdre. » Franchement, là, on parle de la moisson d'âme pour Christ. Est-ce que tu penses vraiment que Dieu veut perdre ces âmes-là? S'il les amène auprès de toi, il va te donner aussi ce qui est nécessaire pour t'occuper de ces âmes. Il y a des gens qui ont peur même de la bénédiction de Dieu. Et quand ils comprennent que cette bénédiction, c'est en fait un travail croissant, que c'est en fait une prospérité au niveau du travail, au niveau du fait que je pouvais faire 10 autrefois, maintenant j'en fais 20, puis j'en ferai 100, puis j'en ferai 1000. Les gens ont l'impression que si je vais arriver à 1000 et je ne serai pas capable de m'occuper de 1000. La Bible va nous dire différents principes qui vont à l'encontre de cette pensée-là. Premièrement, la parabole des talents. Il y en a un qui en reçoit 5, un qui en reçoit 2, un qui en reçoit 1. Celui qui en reçoit 5, il revient avec 10 talents. Celui qui en reçoit 2 revient avec 2 talents. Et il y a l'autre qui va tout simplement enfouir son talent dans la terre et qui revient voir son maître par la suite en disant « Ben, je ne l'ai pas fait fructifier, mais au moins je ne l'ai pas perdu. » Et le maître va lui dire « Mais au moins, tu aurais pu aller le confier à des banquiers qui auraient fait en sorte que celui-ci me serait revenu avec un peu d'intérêt. » Celui qui avait 5 talents a été capable d'en produire 10. Et ces 10-là lui ont été remis plus le talent de celui qui n'avait rien fait. Donc, il était rendu à 11 talents. Et que pensez-vous que ce bon serviteur va faire? Il va prendre ses 11 talents, qui sont en fait des pièces d'argent. Ils vont prendre ses 11 pièces d'argent. Et qu'est-ce qu'il va faire? S'il continue dans la même veine, il va revenir quelques temps plus tard, non plus avec 11 talents, mais avec 22 talents. Puis le maître va lui dire, utilise ses 22 talents et que va-t-il faire avec ses 22 talents? Il va en avoir 44, puis 88, et vous voyez la suite. Donc il y a cette progression très logique dans la parole de Dieu. De surcroît à cela, la Bible nous dit qu'il a donné à certains d'être des chefs de 1000, des chefs de 50, des chefs de 10. Donc, à chacun d'entre nous, lorsqu'il nous donne un mandat, il nous donne effectivement le talent pour atteindre l'objectif. Et si effectivement cette progression doit aller vers l'avant, après le 10, il nous donnera aussi ce qui est nécessaire pour la prochaine récolte. Donc, n'ayons pas peur de l'ampleur de la récolte. Dieu sait ce qu'il fait. N'oublions pas, nous semons, nous ensemençons, nous travaillons la terre, mais qui fait croître? Dieu, c'est Dieu qui fait croître. Donc cette récolte qui s'en vient, c'est Dieu qui la prépare et de surcroît, il nous prépare à nous aussi pour être à la hauteur de cette récolte. Encore faut-il accepter d'être dans cette formation perpétuelle où le Seigneur nous prépare pour être encore de meilleurs travailleurs que nous l'avons été jusqu'à présent. Aller de gloire en gloire et de progrès en progrès. Donc, n'ayons pas peur de la moisson qui s'en vient, n'ayons pas peur de la vendange qui s'en vient, n'ayons pas peur de la récolte qui s'en vient. Dieu sait ce qu'il fait. Même si tu passes de 10 à 1000 en un clin d'œil, n'aie pas peur, celui qui produit cette récolte, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Enfin, dernier terme pour aujourd'hui, le terme « mou », T.E. Roach. Vin nouveau, vin fraîchement pressé, vin doux, du jus de raisin. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que tes cuves seront toujours remplies de vin nouveau. Encore là, c'est le cycle qui se répète. Année après année, la vigne produit de son fruit. Le jour où tu démarres l'œuvre de la vigne, les premières années, tu risques de ne pas avoir grand-chose. Mais après ça, c'est un entretien régulier que tu fais sur la vigne, mais saison ou année après année, vers le mois de septembre-octobre, ben la période des récoltes, la période des vendanges arrive et tu ramasses ce fruit. Et de ce fruit, tu tires un nouveau vin nouveau. Donc, il y a tout le temps ce processus de constant renouvellement dans notre travail et dans notre service. Ce qui change, c'est que la grosseur de la récolte peut augmenter à l'occasion, selon le temps qu'il y a eu pendant l'été, selon le temps qu'il y a eu au début du printemps ou à la fin de l'automne. Il peut arriver effectivement que la récolte en quantité change, mais cette pluie-là vient de Dieu, ce soleil-là vient de Dieu. Tu as fait ton travail et tu ramasses la récolte que Dieu veut bien te donner. Mais cycliquement, tu retournes dans ce travail de vendange, dans ce travail de récolte et dans ce travail de production d'un nouveau vin. À chaque année, il y a une nouvelle récolte et à chaque nouvelle récolte, il y a un nouveau produit qui en découle. Donc, un processus constant de renouveau. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est des choses qui se répètent. Nous sommes dans des cycles de 24 heures, dans des cycles d'une semaine, dans des cycles d'un mois, dans des cycles d'une année où les choses se répètent et à un moment donné, on recommence la roue et on recommence à produire, on recommence à s'occuper de la vigne et on recommence à moissonner et on recommence à produire encore un vin nouveau. Ça veut donc dire que la subsistance est assurée par Dieu. Parce que si la vigne venait à ne plus donner de fruits, ben à ce moment-là, le viticulteur, le vigneron, l'œnologue, peu importe le terme que tu veux utiliser, ben il tomberait au chômage. Nous, le Seigneur nous assure que nous ne manquerons jamais de travail si nous l'honorons, que nous ne manquerons jamais d'occasion de servir si nous l'honorons et que nous ne manquerons jamais d'occasion de récolter si nous l'honorons comme il se doit. Dernier point concernant le mou. On est déjà rendu à 9 heures. Ce qu'on doit comprendre, c'est que ce qui sort de la cuve et ce qui sort du pressoir, c'est un jus. C'est un jus de raisin. Un jus de raisin qui peut être bu de façon tout à fait instantanée. C'est très sucré, c'est un peu opaque comme couleur. C'est pas affiné, mais il peut être tout à fait bu et c'est très agréable au goût. Mais le vrai viticulteur, ce qu'il va faire par la suite, c'est que il va prendre ce jus-là, il va le mettre en barrique, dans lesquelles le jus de raisin va se mettre à fermenter, va être pétillant pendant un certain temps, puis va perdre son gaz pour devenir du vin. Et on sait, pour ceux qui connaissent la question du vin, c'est qu'il y a certains types de vins qui demandent de mûrir ou de vieillir en fût pendant un certain temps. Il prend toute sa qualité, il se bonifie avec le temps s'il est bien conservé dans une bonne cuve, avec le bon type de bois, avec la bonne température, avec la bonne rotation qui se fait pour que le dépôt puisse se canaliser vers le bas, puis après ça on le met en bouteille, mais là encore, une fois en bouteille, ça ne veut pas dire que le vin est prêt à être consommé tout de suite. Certains vins vont être bons à la consommation tout de suite, mais d'autres vont nous dire, mais si tu attends un an, deux ans, 10 ans, 20 ans, 100 ans, ce vin-là va être encore meilleur. Parce qu'il continue à se bonifier. Donc parfois la bénédiction que Dieu nous donne, ta récolte que tu croyais être une bénédiction ultime, parfois va requérir de toi, effectivement, tu étendes les pourtours de ta tente pour sortir de ton boulot strict de viticulteur pour devenir vigneron et devenir producteur vinicole. Et là encore, quand tu commences à faire ton vin, ça va te prendre encore du temps avant que tu ne saisisses pleinement tout ce que ce produit peut devenir. Alors ne soyons pas pressés à consommer des bénédictions instantanées. Malheureusement, il y a trop de chrétiens qui veulent avoir une relation avec Dieu comme quand on passe au service à l'auto dans des chaînes de restauration rapide. On passe là-bas le drive-through qu'on dit en bon anglo-saxon. On passe là et on dit je veux tel trio avec telle boisson, telle grosseur de frites et puis deux chaussons pour terminer. Et dans 30 secondes, tu passes, t'as payé, on te le donne, tu es dans le parking et tu es en train de manger ce qu'on t'a donné. Il y a des choses qui prennent plus de temps et il y a des bénédictions qui vont demander pour toi plus de travail, mais plus tu vas t'affairer à cette bénédiction, plus tu vas prendre soin de cette récolte, plus tu vas prendre soin de cette vendange, plus celle-ci va se transformer en un produit noble. On s'entend qu'entre un jus de raisin et un vin de très très grande qualité, le prix est pas le même en partant, même si c'est le produit qui est identique à la base, mais c'est pas le même produit à la fin. Donc tu pourrais consommer toute ta bénédiction aujourd'hui et passer à côté du merveilleux produit que peut être un très grand cru que tu aurais laissé vieillir, à qui tu aurais accordé le temps de vieillir jusqu'à ce qu'il devienne pleinement tout ce qu'il devait devenir une fois bonifié. Alors qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu effectivement que la récolte en soi n'est pas toujours la bénédiction finale que Dieu a pour nous. Et on a vu en fait que la récolte est tout simplement l'occasion de mettre la main à de nouvelles tâches. Un peu comme le pêcheur qui ramasse son filet pourrait se dire mon boulot est terminé, mais là encore reste-t-il le travail de préparer le poisson, de l'évider, de le nettoyer, de le mettre en vente ou plus, ou encore de le préparer, de le cuire pour le servir sur la table par la suite. Dans certains cas, c'est même de ramasser le filet de poisson pour ensemencer dans différents secteurs où ce poisson-là n'existe pas. Donc, ne te limite pas à une première récolte. Ne te limite pas à la chose qui pourrait te sembler comme la bénédiction. Il y a probablement plus, davantage et encore plus par la suite. Si tu donnes effectivement l'occasion d'apprendre de nouvelles choses, si tu te donnes l'occasion de mettre la main à d'autres types de services, tu vas te rendre compte que le raisin, que la grappe de raisin peut devenir tellement autre chose si tu prends ton temps et si tu y mets l'ardeur, le travail et la ténacité. Et peut-être que si tu attends assez longtemps, cette bénédiction va se transformer dans le meilleur vin que tes lèvres n'auront jamais goûté. Alors ne soyons pas pressés et ne nous limitons pas à la bénédiction apparente de la première surface. Probablement que Dieu a d'autres occasions de service, d'autres occasions de faire croître notre ministère, d'autres occasions de nous apprendre à faire encore plus avec ce qu'il met devant nous. Alors voilà ce que nous avions pour nous ce matin comme bénédiction. J'espère que ça vous a sustenté pour aujourd'hui. On se retrouve effectivement demain pour la dernière bénédiction matinale avec un temps de prière. Demain, c'est notre journée de jeûne et de prière, le vendredi depuis déjà plusieurs semaines. On vous invite à être dans le jeûne et dans la prière. Donc, on débute avec la prière demain matin et on termine demain soir avec notre réunion de prière à 19h. Et entre les deux, on vous invite à passer du temps dans la présence de Dieu. Alors, permettez-moi de prier pour vous ce matin et après ça, on va saluer quelques personnes qui se sont jointes à nous depuis mes dernières salutations un peu plus tôt. Alors, merci Seigneur pour toutes ces occasions que tu nous donnes de servir. À l'instar, Seigneur, du livre de l'Ecclésiaste, nous voulons te dire aussi, Seigneur, que toutes les occasions que tu nous donnes, toutes les occasions que tu donnes à notre main de te servir, nous allons les utiliser à bon escient. Merci Seigneur parce que tu nous surprends. Ta bénédiction n'est pas juste pour aujourd'hui, n'est pas juste ponctuelle pour aujourd'hui, mais très souvent ta bénédiction est pour nous amener à exceller dans des domaines qu'on n'aurait jamais cru pouvoir exceller, de nous initier dans des phases de travail qu'on croyait si distantes de nous. Mais lorsqu'on voit ta main qui agit pour nous et par nous, on te fait confiance dans les portes que tu ouvres. Merci Seigneur parce que tu parles à tes fils et à tes filles ce matin. Et merci Seigneur parce que pour plusieurs d'entre eux, tu ouvres leur entendement aujourd'hui vers des positions, vers des positionnements, vers des nouveaux postes, vers des nouvelles fonctions dans lesquelles, Seigneur, tu vas les bénir et tu vas les faire croître. Nous bannissons la peur, Seigneur, quant à notre capacité de faire face à la récolte à venir, quant à notre capacité à faire face au travail à venir. Si tu nous appelles, tu nous donnes aussi toutes les capacités nécessaires pour mener à bien ce travail. Alors, Seigneur, nous savons que la récolte t'appartient, que la croissance du fruit t'appartient, que la bénédiction t'appartient. Et si tu nous juges dignes, Seigneur, d'y mettre la main, nous serons présents, nous ferons face au travail, sachant que tu nous as préparés, que tu nous as élus, que tu nous as établis, et que c'est toi, Seigneur, qui renouvelle en nous la connaissance, peut-être qui nous manquait, l'intelligence, la science qui nous faisait défaut, tu nous l'accordes afin d'être à la hauteur de la vendange vers laquelle, Seigneur, tu nous destines. Alors j'appelle la bénédiction sur ma sœur, j'appelle la bénédiction sur mon frère, je prie, Seigneur, qu'il soit assez patient pour voir parfois même cette bénédiction initiale que tu as donnée croître pour se transformer dans un produit noble, dans un produit de luxe, dans un produit, Seigneur, qui fait honneur à ton nom. Quand toute chose, Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi, nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, quelques personnes à saluer ce matin. Laissez-moi juste remonter un peu. Alors, bonjour à Babette, bonjour à Sonny, bonjour à Sylvia et à Angel, bonjour à Rosie, bonjour à Ramon, bonjour à Evelyne, bonjour à la sœur Susanna, bonjour à la sœur Florie, au frère Louis, bonjour à Jude, à Caridad, bonjour à Diana, bonjour à Chantal et à Léo, bonjour à Adriana. Bonjour à Consuelo et à Jean. Bonjour à Maggie. Bonjour à Farley, à Marie-André. Bonjour à Marta Lucia. Bonjour à Sylvie. Bonjour à la sœur Sylvia. Je ne sais pas si je l'avais saluée tout à l'heure. J'avais salué le frère David, mais je ne sais pas pour la sœur Sylvia. Donc bonjour. Bonjour Andrés. Dieu te bénisse. Bonjour à qui? À Diane. Ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu, Diane. Content de t'avoir avec nous. Sois bénie. Bonjour à Suze. Voilà. Alors, c'était les salutations pour ce matin. C'était la bénédiction matinale pour ce matin. J'espère que vous êtes emballés par les occasions de service que Dieu va susciter devant vous. N'ayez pas peur de la tâche. N'ayez pas peur de l'ampleur de la bénédiction, de l'ampleur de la récolte. S'il vous a appelé, il vous mène à être à la hauteur pour tout cela. Alors, que Dieu vous bénisse. On se retrouve donc demain matin pour cette journée de jeûne. Donc, demain matin, 8h30 pour notre dernière bénédiction de la semaine. Alors, bien des choses à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Bye bye tout le monde.